Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Benjamin Boivin, candidat à la maîtrise en sciences politiques à l'UQAM. Il s'attarde à la Semaine Sainte, particulièrement au Jeudi Saint, soit aujourd'hui, qui marque l'institution de l'Eucharistie, source et sommet de toute la vie chrétienne selon les pères conciliaires. Mais tout d'abord, Jean-Claude Labrecque, membre de l'équipe, nous parle du blocage du canal de Suez suite à l'enlisement d'un bateau de 400 mètres chargé de 20 000 conteneurs. Un autre exemple d'un gigantisme vulnérable aux imprévus, avec des conséquences mondiales inimaginables. Jean-Claude, bonjour.
Bonjour.
Vous savez, en lisant un peu les nouvelles sur ce cargo bloqué dans le canal de Suez, qui a été fort heureusement débloqué depuis, j'avais l'impression d'avoir une énième variation sur le thème du battement de l'aile du papillon en Amazonie, vous savez?
Oui, effectivement, parce que effectivement, cet immense bateau, immense bateau, cet immense porte-conteneur, a été, si vous voulez, lorsqu'il s'est mis en travers du canal de Suez pour une simple et bonne raison, parce qu'il est arrivé une rafale de vent qui l'a poussé. Bon, donc tout ça a fait qu'il s'est le Ever Given s'est enlisé et en fait il s'est ensablé dans sa partie avant, en travers du canal, je le répète une deuxième fois, c'est qu'on venait d'avoir une rafale de vent. Je dis une rafale, je ne dis pas une tempête de sable, je ne dis pas une tempête interminable, c'est une rafale, certainement une rafale importante, mais évidemment, à la grosseur de ce bateau, comme vous l'évoquiez, qui fait 400 mètres de long, qui en fait 59 de large et qui peut porter 20 000 conteneurs, le bateau lui-même fait 220 000 tonnes, évidemment, vous imaginez
220
donc la hauteur. Vous imaginez donc la hauteur de ce bateau. En fait, ce bateau, si on le mettait debout, il était aussi haut que cet important building à New York là, que tout le monde va voir, etc. Donc, c'est énorme comme bateau. Imaginez 400 mètres de long. Hein, 400 mètres de long, là, c'est quasi un demi-kilomètre. Hein, si on essaie de... Donc, tout ça pour dire que ce bateau, il s'est mis en travers du canal, mais ce bateau, qui était aussi énorme, qui transporte autant de conteneurs, il se dirigeait vers Rotterdam depuis l'Asie, lorsqu'il était bloqué dans le canal dans la nuit du mardi 23 mars, dans la nuit du mardi au mercredi, là, le 23 mars. Donc, samedi dernier, donc ce samedi qui vient de passer, parce qu'il était bloqué là, lui, on dénombrait déjà 300 bateaux de transport bloqués de chaque côté du mastodonte. Si vous voulez, cet événement-là a sûrement eu une incidence majeure sur le flux du trafic maritime. Il faut juste se rappeler que le canal de Suez, c'est un canal qui permet le passage d'environ 12% du trafic maritime mondial.
C'est pas mal.
12% là. Et donc, le canal, si vous voulez, c'est cette voie-là. Cette voie maritime, c'est quoi son avantage? C'est qu'elle permet d'éviter de contourner tout le continent africain via le redoutable Cap Bonne-Espérance, donc un détour de 9000 kilomètres. Et elle constitue donc, si vous voulez, un lien rapide et direct entre l'Asie et l'Europe, faisant passer les navires de la mer Rouge à la Méditerranée et de la Méditerranée à la mer Rouge. Donc,
je rappelle seulement une chose, le canal de Suez est en Égypte, forcément, et le Cap de Bonne-Espérance, et c'est la pointe extrême sud de l'Afrique, donc en Afrique du Sud, et très, très, très risqué, évidemment, c'est redoutable, comme vous le disiez, Jean-Claude.
Oui.
Fin de ma parenthèse.
Donc, tout ça pour dire que lundi dernier, en mi-journée, on a réussi à repositionner le navire. Donc, le positionnement du navire avait été remis en bonne situation à peu près à 80% selon le président de l'autorité du canal de Suez. Et il était en cours de sécurisation selon l'entreprise de services marins, In Cape Shipping Service, et il laissait espérer une réouverture de cette voie maritime essentielle. Juste pour resituer encore la chose correctement, pour que les gens comprennent bien, la poupe, l'arrière du bateau, à partir du moment où on a réussi à le repositionner, était maintenant à 102 mètres de la rive, alors qu'avant qu'on le repositionne, elle était à 4 mètres de la rive. Donc, et alors que l'avant, la proue du bateau, elle, était ensablée sur l'autre rive. Donc, vous voyez donc que la voie était complètement bloquée dans 4 mètres. Il n'y a aucun bateau de transport qui pouvait passer là, évidemment.
Ou une pirogue, ou un you-you, une chaloupe.
Oh, puis même probablement
en chaloupe.
Probablement qu'on ne l'aurait pas autorisé parce qu'au moindre mouvement ouais. du gros navire, si jamais il y en avait un, ça aurait fait un mouvement d'eau important.
Donc, Jean-Claude, quelle est la largeur de le Ever Given, donc ce porte-conteneur gigantesque qui a été bloqué par rapport à la largeur du canal de Suez?
Le Ever Given, je le répète, il fait 400 mètres de long et il fait 59 mètres de large. 59, hein? Alors que le canal de Suez, donc cette voie d'eau-là, elle fait 300 mètres de largeur. Donc
c'est serré, hein?
Et est aussi une des plus fréquentées au monde. Donc, vous imaginez, si vous avez deux bateaux qui font 59 mètres de large qui doivent se rencontrer dans ce canal, ça laisse pas beaucoup d'espace pour quelques mouvements que ce soit. Donc, si vous voulez, tout ça nous amène à dire que le canal de Suez, pour que les gens comprennent bien de quoi il s'agit comme situation, là, ça a beau être une voie rapide, c'est quand même une voie qui fait 190 km de long. Donc, le canal de Suez, là, par exemple, en 2020, a permis le passage de 19 000 navires de transport.
Hey, c'est beaucoup.
Et donc, oui, et l'assureur Allianz, là, qui est un assureur important dans tout l'univers du monde maritime, estime que chaque jour d'immobilisation de ce mastodonte pourrait coûter entre 6 et 10 milliards de dollars au commerce mondial. Donc, si vous voulez, c'est un accident qui a fait d'ailleurs bondir un certain nombre de prix, dont le cours du pétrole, pendant quelques jours.
Les Égyptiens, j'imagine que l'Égypte elle-même, qui perçoit des droits sur le passage maritime, a dû perdre pas mal d'argent là-dedans, non?
Mais oui, donc c'est une importante, comme vous l'évoquez, c'est une importante source de revenus pour l'Égypte. Voilà. Ce pays, dans ces jours-là, perdait entre 12 et 15 millions de dollars par jour de fermeture. Juste vous rappeler que pour l'année, par exemple, 2020, l'année 2020, le canal a rapporté 5,61 milliards de dollars à l'Égypte en 2020. Donc, autrement dit, 5 milliards 600 millions, ça a été le revenu qu'a rapporté ce canal au pays qui est l'Égypte. Donc, le pays, lui, l'Égypte, donc évidemment, c'est une source de revenus importante, mais le pays songeait déjà, non seulement déjà, avait déjà amorcé des travaux avait déjà amorcé des investissements et des travaux pour élargir le canal. Et ça avait été amorcé en 2015 et on espère toujours avoir terminé l'élargissement du canal d'ici 2003. Et cet élargissement-là
2003?
Permettrait... 2023, pardon. Cet élargissement-là permettrait, si vous voulez, de réduire le temps d'attente, parce qu'actuellement, bon, le trafic est important, mais étant donné la largeur du canal, les bateaux doivent attendre. On ne peut pas passer en groupe, évidemment.
Il y a autre chose, Jean-Claude.
Et d'autres, juste une petite seconde. L'autre chose, c'est que si on l'élargissait, ça permettrait aussi de doubler le nombre de navires qui pourraient y passer. On pourrait passer donc de 20 000 par année à 40 000 par année.
Donc, plus de revenus pour l'Égypte.
Bien sûr.
L'Égypte dépend en grande partie du tourisme. Alors, avec les troubles religieux, politico-religieux qu'il y a eu avec la pandémie, le tourisme a forcément chuté. Donc, le canal de Suez est un ballon d'oxygène pour ce pays. Alors, imaginez que le blocage d'un porte-conteneur fait doublement mal au pays.
Oui, voilà. Et tout ça pour dire, donc, juste si on veut revenir à l'origine du canal de Suez.
Oui, tout à fait, allons-y.
À l'origine, si vous voulez, ce projet avait été conçu par Ferdinand de Lesseps, qui est un entrepreneur et un diplomate français. Entrepreneur et diplomate français. Mm-hmm. C'est un projet colossal de construction là, qui visait, comme on l'a déjà dit, mais qui visait à relier les mers Rouges et les mers Méditerranées. Mm-hmm. Il avait nécessité, lorsqu'il a été construit, 10 ans de travaux. Donc, de 1859 à 1869. Et selon les données que j'ai réussi à trouver, on semblerait qu'il y aurait un million d'Égyptiens qui auraient travaillé durant cette période de 10 ans.
Et des dizaines de milliers qui seraient morts là-dedans dans les conditions aussi épouvantables. J'ai entendu dire que c'était vraiment pas une promenade de santé hein, pour ces
Égyptiens. Non, c'était pas une promenade de santé. C'est un peu l'équivalent des mines de charbon à la même époque là, hein, comme milieu sécuritaire de travail.
Sécuritaire, oui.
Et donc, si vous voulez, en 1875, la dette extérieure de l'Égypte était tellement élevée que ça l'a contraint à vendre ses parts au Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni était très, 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 très emballé de devenir non seulement un investisseur, mais propriétaire de ce canal, parce que ça lui permettait d'avoir un accès rapide à ses colonies indiennes. À partir du moment où il en était le propriétaire, évidemment, il allait l'utiliser. Il faut rappeler aussi qu'en 1956, lorsque Nasser avait été élu, une fois qu'il a été élu président en 1956, qui était donc un président de l'Égypte, là, il a donc nationalisé le canal parce qu'il trouvait que c'était un instrument important en termes de revenus pour son pays.
Donc, c'était à l'origine de la crise de Suez en 56 avec Israël, la France, l'Angleterre et les États-Unis qui étaient contre cette question-là. Et c'est là que S.T.B. Pearson a inventé les casques bleus, ce qui lui a valu d'avoir le prix Nobel de la paix par la suite. On est vraiment dans le même sujet, hein?
Oui, exactement. Mm-hmm. Et donc, tout ça, pour vous dire que donc Nasser, quand il l'avait nationalisé, ben, c'est parce que ça devenait une importante source de revenus pour son pays.
Évidemment.
Donc, cet accident-là témoigne, si vous voulez, vous l'aviez évoqué en introduction, du gigantisme qui est à l'œuvre dans le transport maritime. La taille des bateaux, depuis 20 ans, la taille des bateaux de transport a triplé. Et je rappelle pour nos auditeurs que l'Ever Given fait 400 mètres de long. Mm-hmm. Hein? Vous imaginez, 400 mètres de long, là, c'est comme deux...
C'est votre immeuble new-yorkais, là. C'est votre immeuble new-yorkais.
Oui, ben c'est minimalement deux fois la longueur d'un terrain de football, hein? Minimalement. Ouais. Et ça fait 59 mètres de large. Donc, lorsqu'il emprunte une voie de 300 mètres de largeur, ben, il reste peu d'espace libre, là. Peu d'espace libre. Et s'il doit en rencontrer un de son gabarit, je pense que c'est impossible. Donc, ces navires-là, qui sont énormes, on le disait tout à l'heure, une rafale de vent l'a fait bifurquer et l'a fait s'enliser. Alors, imaginez que si ces navires sont énormes, ils sont sûrement difficiles à manœuvrer dans un espace aussi... D'abord, à manœuvrer en général, et dans un espace aussi restreint, ça doit être extrêmement difficile de les manœuvrer. Donc, face à ce blocage-là du canal de Suez et à le blocage par le Ever Given, il y a certains armateurs qui ont décidé de dérouter leurs bateaux et de leur faire contourner l'Afrique. Évidemment, pour ceux qui suivent un peu tout ce qui se passe dans cette région du monde, vous savez que s'ils passent du côté ouest, si ces bateaux-là passent du côté ouest de l'Afrique, donc par le golfe de Guinée, ils vont être exposés à la piraterie maritime, qui est toujours très, très, très active dans cette région du monde. Je veux juste vous rappeler que sur 142 opérations de piraterie, les opérations, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, 142 actions de piraterie maritime qui ont eu lieu en 2020 ou 2019, là, je ne me rappelle plus de l'année exactement, il y en a 130 qui étaient dans la région du golfe de Guinée. Donc, ça vous donne une idée de l'importance et de l'activité de cette piraterie.
Il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que l'Ever Given a finalement été débloqué. Ça a pris quand même pas mal de temps, pas mal de pelles mécaniques. Enfin, ça a été d'une complication inouïe. Ils ont travaillé 24 heures sur 24, certainement. Maintenant, l'Ever Given peut voguer de sa...
Il a été renfloué, là. Donc, lundi dernier, vers 13h30, heure de Montréal, donc ça veut dire on est 8 heures plus tard là-bas, là. Vers 13h30, heure de Montréal, le trafic maritime a repris. Et on a estimé qu'on aurait besoin d'au moins 6 jours, 24 heures par jour, pour faire s'écouler les 400 navires qui étaient bloqués depuis mardi de la semaine dernière.
Quelle opération!
Donc, les conséquences, si vous voulez, sur l'acheminement des biens, hein, ils vont se faire sentir durant plusieurs jours, voire durant plusieurs semaines, parce qu'il faut aussi avoir à l'esprit qu'une fois que ces bateaux qui étaient bloqués là qu'on attendait un peu partout dans le monde, dont ici, dans l'est du pays. Hein? Donc, on les attendait, mais ils n'arrivaient pas. Mais maintenant qu'ils sont tous débloqués, ils vont arriver à la, quasi à la queue leu-leu. Donc, ça veut donc dire que les ports de l'est d'ici, de l'est du pays, les ports de Halifax, les ports de Québec, les ports de Montréal, les ports de Trois-Rivières, vont être débordés. Hein? Ils vont être débordés. Et donc, là, ça va... Et tout ça va... Et ça va faire prendre un certain temps avant qu'on arrive à prendre possession de leur cargaison. Mmh. Et donc, il y aura, c'est sûr qu'il y aura des pertes, et donc il y aura des pertes financières importantes.
C'est extraordinaire, Jean-Claude, c'est extraordinaire. C'est une rafale de vent dévie un méga porte-conteneur dans un canal extrêmement étroit, ça bloque 400 navires. C'est comme un domino qui tombe et tac, 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 tous les autres dominos et le commerce mondial est affecté pour une rafale de vent. Exactement. Imaginez un peu, c'est éloquent.
Ben, ça revient avec l'idée là, de du battement de l'aile de papillon.
Oui,
du papillon, là, qui a simplement fait un battement d'aile, mais les répercussions, si on va jusqu'au bout, de la séquence, font que ben, finalement, c'est le commerce mondial qui est bloqué, à toutes fins utiles.
Mais donc, alors, ça pose quand même une question, Jean-Claude Aubry, pardonnez-moi, mais je vous presse un peu.
Non, allez-y.
Il y a une disproportion entre le bobo initial et l'effet. J'ai l'impression qu'on vit dans des économies d'abord interreliées, comme ce n'est pas possible, avec la mondialisation, et le gigantisme. Vous parliez de la taille des cargo qui a triplé dans les 20 dernières années. Je veux dire, plus un système devient complexe, gros, énorme, plus il peut être fonctionnel, mais dès qu'il y a un grain de sable, il n'est pas un peu dysfonctionnel, il est dysfonctionnel et pas à peu près. On va vers le maximum d'efficacité ou vers le maximum d'inefficacité quand on est dans un tel gigantisme. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Ben exactement. C'est ce que je crois exactement. Et d'autant plus été exacerbé parce que, vous le disiez en utilisant le mot tantôt, avec la mondialisation, on est rendu dans une interdépendance de toute la Terre, de tout l'univers terrestre, et qui fait que, par exemple, vous êtes un peu plus jeune que moi, mais moi, je me rappelle quand j'étais enfant, quand j'étais au début de la vingtaine, de la trentaine, ben, il y a des fruits, il y a des légumes que tu ne trouvais pas ici parce qu'ils venaient de l'étranger. Hein? Puis que c'était plus la saison, puis ici, on avait des fruits, des légumes qui en été, on avait certains fruits, certains légumes, puis quand arrivait l'automne et l'hiver, on avait certains autres fruits et légumes et quelques fruits en importation. Maintenant, si vous voulez manger des asperges, vous pouvez en manger 365 jours par année.
Oui,
si vous voulez manger du brocoli, vous pouvez en manger 365 jours par année. Vous voulez manger des tomates, c'est la même chose. Vous voulez...
Alors que c'était votre époque, vous, Jean-Claude, l'orange à Noël, vous avez connu ça, vous?
Oui, bien sûr. L'orange, puis ça coûtait ça. Donc, on n'en envoyait pas à la douzaine pendant tout l'hiver. On envoyait, quand arrivait le temps, des oranges là, qui venaient de je ne sais pas où, probablement de Floride à l'époque. Mais il y avait un moment où il y en avait un peu, mais on n'avait pas ça, 365 jours par année. L'hiver, on mangeait des légumes racines, hein? C'est-à-dire les trucs qui poussaient ici et qu'on pouvait conserver en les mettant dans des caveaux avec du sable, là, c'est-à-dire les pommes de terre, les carottes, les choux-siams, bon, etc. Tous ces légumes racines.
Mais alors, tenez, est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous voudrez revenir à cette époque-là où on mangeait des pommes et en avril, on avait des vieilles pommes ou des conserves une confiture de poire?
Je ne vous dis pas qu'on devrait revenir à ça totalement, mais je pense qu'il y aurait lieu, probablement, que nous regardions un peu sur quel est l'impact de cette mondialisation et de ce gigantisme qui fait que tout est... Eh bien, d'abord, un des impacts que moi je trouve, c'est que si vous regardez, par exemple, sur le plan... Regardez simplement le plan des boutiques où on vend des vêtements, là, les grandes marques. Là.
Oui,
faites le tour du monde, vous allez en Europe, vous allez en Asie, vous allez en Chine, vous allez aux États-Unis, vous allez faire le tour de l'Amérique du Sud. Oui. Les mêmes boutiques sont partout. Hein, partout. C'est les mêmes enseignes, c'est les mêmes vêtements, c'est les mêmes choses, exactement. Ce qui fait qu'on est en train de standardiser l'humain, hein, le rendre le rendent identique partout dans le monde, alors que l'humain ne vit pas, tous les humains ne vivent pas dans le même climat, ne vivent pas dans le même espace, ne vivent pas dans le même dans la même culture, etc. C'est comme si on était en train ici d'éliminer en même temps tous les atavismes culturels. On est en train de standardiser. Moi, je pense que il y a sûrement une réflexion à avoir sur l'interdépendance et se demander est-ce que cette interdépendance est vraiment utile pour le bien-être des personnes et des sociétés si on accepte là, la dimension commerciale et économique. En tout cas, il y a sûrement lieu d'y réfléchir et peut-être au moment où nous sommes actuellement, jeudi saint, demain, vendredi saint, peut-être c'est un moment pour réfléchir à ça. Voilà.
Entre-temps, Jean-Claude Debrec, je vous remercie beaucoup pour ces réflexions sur le blocage du canal de Suez. Je vous souhaite à vous et à vos proches une bonne montée pascale, joyeuse Pâques et on vous retrouve dans deux semaines, vous?
Avec plaisir.
Allez, merci Jean-Claude.
Merci.
À venir sur les ondes de Radio VM, la profondeur du jeudi saint et le mystère de l'Eucharistie. On vous revient après la pause publicitaire.